Europe 1, il est midi.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
Bonjour à tous et merci de passer l'été en notre compagnie. Le projet de loi pouvoir d'achat arrive dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Comment le gouvernement va-t-il trouver des compromis? Comment les oppositions vont-elles se comporter? Nos invités pour en débattre tout à l'heure, la députée Renaissance des Yvelines, Natalia Pouzyreff, et son collègue du Rassemblement National, Thomas Ménager, député du Loiret. J'espère que vous n'avez pas trop ouvert les volets ce matin, que vous avez un brumisateur à portée de main. Il fait très chaud aujourd'hui partout en France. C'est particulièrement éprouvant sur la façade atlantique, où nous serons dans quelques instants, Europe 1, au plus près des graves incendies de Gironde également. Les feux sont toujours en cours et pourraient même être ravivés par les conditions météo du jour. Les coureurs du Tour de France, eux, sont épargnés aujourd'hui. Journée de repos avant les Pyrénées demain. Richard Virenque nous rejoint tout à l'heure pour évoquer cette dernière semaine du Tour qui commence donc demain. Bienvenue à tous dans Europe Midi.
Europe 1.
Ça tape, ça crame, c'est irrespirable. Le pic de la canicule et son lot d'expressions pour tous les Français aujourd'hui et demain. 15 départements en vigilance rouge, 51 en orange, tout le reste en jaune. Les pires chaleurs sont attendues sur la façade atlantique et le sud-ouest. Pour vous dire, Brest pourrait connaître pour la première fois de l'histoire un thermomètre à plus de 40 degrés. Record en vue également dans la région nantaise. Charles Guyard, on attend plus de 40 degrés aujourd'hui.
Oui, nous sommes ici à Taron depuis le milieu de la matinée. Plusieurs parasols parsèment le sable. Des enfants jouent à s'éclabousser dans les vaguelettes. Les pieds dans l'eau, la tête au chaud, trop chaud même pour cette grand-mère qui remonte de la plage avec ses trois petits-enfants. Cet après-midi, tous resteront enfermés.
Pas de plage. Là, on en vient et du coup, on a profité ce matin qu'il y a un peu d'air. Mais maintenant, non, on va rentrer et se mettre au frais jusqu'à ce soir.
C'est trop chaud là.
Ah oui, c'est trop chaud. Oui.
En haut des marches, sur le remblai, le grand manège tourne depuis le début de la matinée. Un seul enfant a pris place sur un cheval pendant que dans leur cabine, Boris et Kevin suffoquent déjà malgré le puissant ventilateur. Ici cet après-midi, le mercure devrait largement franchir les 40 degrés. Eux qui sont installés ici depuis trois décennies n'en reviennent pas.
Non, on n'a jamais vu ça. Pour travailler, c'est beaucoup trop. Après, bon, on reste ouvert parce que voilà, faut faire vivre le pays, il faut amuser les enfants, donc on reste là.
Mais les enfants, ils vont sortir quand même.
Ah, on espère.
On ne sera pas débordés.
Juste en face, en revanche, on s'attend à une activité beaucoup plus soutenue.
Plus il fait chaud, plus les affaires sont bonnes, c'est sûr.
De fait, Marjorie est vendeuse de glace.
Oui, les gens, dès qu'ils viennent des plages, ils remontent au glacier.
Un instant fraîcheur, bienvenue ici au cœur de cette vague de chaleur qui, plus loin dans les terres, a déjà eu raison de plusieurs dizaines d'hectares de végétation partie en fumée depuis hier en Loire-Atlantique.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans la région nantaise. Voilà, pas un jour à faire un semi-marathon à 14h. L'expression n'est pas de moi, c'est celle du ministre de la Santé, François Braun, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Selon lui, le système de santé est prêt à affronter cette canicule. Vigilance de rigueur pour les Français les plus vulnérables, les personnes âgées, mais aussi les nourrissons en proie à la déshydratation. Les bébés boivent peu d'eau et ont du mal à comprendre qu'ils ont soif. Explication et solution avec le professeur Robert Cohen, il est pédiatre.
Les enfants, ils peuvent avoir soif, ça va se manifester par des pleurs, par un comportement normal, mais ils ne sauront pas dire qu'ils ont soif avant, on va dire, 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser à leur proposer à boire. Et s'ils ont soif, ils vont l'accepter. S'ils n'ont pas soif, il ne faut pas s'en inquiéter. En fait, quand les enfants sont déshydratés, ils manifestent de l'inconfort. C'est-à-dire ils pleurent pour rien, ils ont un comportement normal. Et ça doit conduire encore plus à proposer à boire. Mais si on propose et s'ils refusent, il faut revenir une demi-heure, une heure après. Et il y a un moment, la soif, la sensation de soif qu'ils ont réellement fait qu'ils vont accepter de boire.
Le professeur Robert Cohen, pédiatre, il répondait aux questions et au micro Europe 1 de Yasmina Katou. En cas d'inquiétude, de détresse, n'hésitez pas à appeler le numéro vert 0800 06 66 66. 0800 06 66 66. Le chiffre à observer aujourd'hui, c'est celui de la température moyenne dans l'Hexagone. Le record atteint en 2003 et en 2019, c'était 29,4 degrés. Voilà une journée qui s'annonce très difficile en Gironde où depuis une semaine bientôt des incendies particulièrement voraces dévorent des dizaines de milliers d'hectares de pinèdes. Plus de 14 000 au total, il y a deux incendies, 1700 pompiers mobilisés avec quatre avions spécialisés. Rejoignons tout de suite Benjamin Péter. Bonjour Benjamin.
Bonjour Raphaël.
Benjamin, vous êtes à Landiras dans les Terres. On craint le pire aujourd'hui avec des conditions météo très défavorables.
Oui, et ce que m'expliquait un pompier, c'est cette règle des 3-30. Au-dessus de 30 degrés, de 30 km/h de vent, et avec un taux d'hygrométrie en dessous des 30%, ce sont des conditions défavorables. Mais là, aujourd'hui, on va voir tous ces indicateurs qui s'affolent avec 44 degrés attendus au plus fort de la journée, moins de 10% d'humidité dans l'air et un vent à plus de 40 km/h, 60 km/h même en soirée. Un scénario critique. Le dernier bilan ici à Landiras fait état de 10 000 hectares brûlés. Pour le sous-préfet de Langon, Vincent Ferrier, la journée va être compliquée. Il va encore falloir tenir.
On voit jour après jour le feu qui s'étend. Ça peut paraître un peu frustrant pour les pompiers parce qu'il y a beaucoup d'efforts. Et surtout, ce qui est difficile, c'est qu'on voit des lignes d'appui qu'on crée, qu'on consolide et qui finalement ne tiennent pas. Parce qu'on a des sautes de feu. Cette nuit, on a des lignes qui avaient été faites aussi avec les forestiers. Elles n'ont pas tenu. On veut quand même rappeler que nos deux premiers objectifs, c'est pas de pertes humaines, pas de biens matériels détruits. On a encore tenu cet objectif cette nuit. C'est difficile, mais on les tient.
Alors, on parlait de la météo et du vent. L'autre difficulté qui s'ajoute, c'est que ces vents vont tourner progressivement vers l'est cette fois. Résultat, 3500 personnes supplémentaires sur trois communes vont à leur tour devoir évacuer dans la journée, avec toujours cette incertitude. Quand pourront-ils rentrer chez eux? Certains ici n'ont plus accès à leur maison depuis 6 jours déjà.
Merci Benjamin Péter. 12 pompiers légèrement blessés depuis le début de ces incendies en Gironde. Au moins 16 000 personnes évacuées. Et puis l'autre feu qui sévit dans la région à la Teste de Buch, lui aussi progresse. Le brasier atteint l'océan des plages proches de la dune du Pilat. Et puis la France n'est pas isolée en Europe. D'autres feux importants en Espagne également. Un pompier est mort hier soir dans le Nord-Ouest. Nous en parlerons dans notre débat tout à l'heure. Le président l'a annoncé dans son interview du 14 juillet. Un plan de sobriété énergétique va être mis sur pied. Nous en reparlerons tout à l'heure donc. Pas de répit, pas de vacances pour les députés avec un agenda à charger ces 3 prochains jours, voire ces 3 prochaines nuits. Le projet de loi très attendu sur le pouvoir d'achat arrive en séance dans l'hémicycle cet après-midi. 20 articles en débat, 20 milliards d'euros de budget prévus par le gouvernement avec des aides pour se nourrir, se déplacer en voiture ou encore payer son énergie pas trop chère. Mais il va falloir composer avec les oppositions. Bonjour Victor Chabert.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Victor, des compromis sont-ils possibles?
Oui, rien à voir avec le texte de la semaine dernière sur le sanitaire. Le gros du travail a été fait en commission et malgré de vives discussions, la majorité a repris plusieurs amendements de l'opposition, comme celui issu des rangs socialistes visant limiter à 5 ans l'utilisation d'un nouveau terminal méthanier au Havre. Un consensus semble même se dégager autour de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. À vrai dire, les oppositions ne peuvent pas ne pas voter un texte pour le pouvoir d'achat des Français, mais peuvent l'amender, d'autant qu'elles se rejoignent sur certains points, comme la baisse des prix des carburants par exemple. À gauche comme à droite, on est conscient des difficultés des Français face à l'inflation et le mot d'ordre concernant ce texte c'est le même partout, c'est mieux que rien, tout avancé est bon à prendre, mais leur objectif sera de pousser le gouvernement à aller plus loin. Une bonne nouvelle pour la majorité qui pourra tenter de faire prévaloir sa nouvelle méthode du compromis, à moins que les oppositions s'attribuent la victoire en revendiquant d'avoir fait bouger le gouvernement sur certains points du texte.
Merci Victor Chabert, nous en parlons tout à l'heure avec la députée des Yvelines Renaissance, Natalia Pouzyreff, et le député du Loiret, Rassemblement National, Thomas Ménager. Le président l'a annoncé, je vous le disais, dans son interview du 14 juillet, un plan de sobriété énergétique va prochainement être mis sur pied. Un plan de sobriété énergétique où comment réduire notre consommation pour éviter des pénuries, notamment de gaz, mais aussi, là encore, alléger nos factures. Des grands groupes de la distribution annoncent dès aujourd'hui ce plan de sobriété. La fédération Perifem, Lidl, Franprix, Casino, Leclerc et autres vont à partir du 15 octobre prochain éteindre leurs enseignes dès la fermeture de leurs magasins ou encore réduire de moitié l'éclairage sur les surfaces de vente. La grande distribution prend les devants. Autre décision, autre accord conclu ce matin par Carrefour avec le réseau de transport d'électricité RTE. Margot Faudéré, vous avez assisté à la signature ce matin. Expliquez-nous ce qu'il y a dans ce nouvel accord.
Oui, c'est le premier acteur de la grande distribution à signer un partenariat avec le gestionnaire de l'électricité. Désormais, grâce à un système de contrôle en interne, les magasins Carrefour pourront réduire leur consommation d'électricité dès que RTE les alertera de tensions sur l'approvisionnement, explique Alexandre Bompard, le directeur général de Carrefour.
Il y a un pic orange, il y a un pic rouge. Tout de suite, on est capable désormais de réagir. On est interfacé avec RTE et on sera capable de piloter immédiatement notre consommation d'énergie, de la réduire, de réduire le chauffage de 2 degrés, de réduire l'intensité lumineuse de 40 à 70% pour répondre à la contrainte d'électricité qu'on aura à ce moment-là.
Les magasins Carrefour consomment 1,3 TWh par heure. 50% de la consommation d'énergie est liée au froid pour les produits frais et surgelés. 20% de l'énergie est liée à l'éclairage et 25% au chauffage et à la climatisation. C'est sur l'ensemble de ces postes de consommation que Carrefour pourra moduler l'énergie. Et Carrefour n'est d'ailleurs pas le seul acteur à s'engager avec RTE. Le gestionnaire d'électricité signera un nouveau partenariat demain avec la région Bretagne.
Merci Margot Faudéré. Les grandes entreprises et la France anticipent des tensions sur le marché de l'énergie. C'est également dans cet esprit qu'Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed, surnommé MBZ, et avec lequel le président va parler hydrocarbures, livraison et production de pétrole notamment. MBZ reçu comme il se doit à l'Élysée ce matin et à Versailles ce soir pour un dîner avec plusieurs personnalités du monde des affaires. Le marché de l'énergie bouleversé par la guerre en Ukraine, elle continue. Des bombardements russes signalés dans l'Est ce matin. Ils ont fait 6 morts selon Kiev. Et puis hier soir, coup de tonnerre politique. Le président Zelensky a limogé la procureure générale et le chef du renseignement ukrainien, William Molinier, des décisions sur fond de lourds soupçons d'infiltration russe au sein de ces secteurs clés du pouvoir ukrainien.
Oui, et d'abord Irina Venediktova, la procureure générale. Pour bien la situer, c'est elle qui a incarné la révélation des crimes de guerre à Boutcha. Elle était chargée d'enquêter sur les exactions russes dans les villes occupées du nord de Kiev. L'autre décret présidentiel concerne le limogeage d'Ivan Bakanov, le patron du SBU, les services secrets ukrainiens. C'est un ami d'enfance de Volodymyr Zelensky, son associé de toujours. Selon le président ukrainien, une soixantaine de fonctionnaires du parquet national et du SBU travailleraient contre l'Ukraine dans les territoires occupés par la Russie, ce qui justifie, selon lui, l'éviction de ces deux hauts fonctionnaires. Il y aurait au total 651 enquêtes ouvertes pour trahison et intelligence avec l'ennemi. Zelensky semble donc bien commencer à faire le ménage dans son entourage. Samedi, déjà, un haut responsable du SBU a été arrêté, accusé d'être un espion russe du FSB. Il aurait transféré des informations classifiées vers Moscou et aurait ordonné, avant l'invasion russe, le démantèlement des champs de mines ukrainiens le long de la ligne de démarcation avec la Crimée, ce qui aurait permis aux Russes d'avancer facilement dans le sud du pays et de s'emparer plus rapidement de la région de Kherson.
Les précisions de William Molinier. Merci William. À l'étranger, toujours la canicule chez nos cousins anglais également. 40 degrés attendus dans le sud de l'Angleterre aujourd'hui. Polémique. Le gouvernement est accusé de négligence. Le Premier ministre démissionnaire Boris Johnson n'est pas venu à une réunion de crise dédiée à cette vague de chaleur la semaine dernière. On reste en Angleterre pour le sport puisque l'équipe de France féminine de football boucle sa phase de poule à l'Euro ce soir, match face à l'Islande. Sans enjeu puisqu'elles sont déjà qualifiées et assurées de la première place du groupe. Mais Cyril de la Morinerie, elles devront essayer de maintenir la bonne dynamique. Hein.
Oui, c'est important pour la confiance et puis pour les statistiques, hein, puisque les Françaises, en cas de victoire ce soir, égaleraient la meilleure série de succès de leur histoire établie il y a 10 ans maintenant, soit 17 victoires d'affilée, ce n'est pas rien. Deuxième enjeu, faire mieux que lors du précédent match, une victoire étriquée face aux Belges de 2 buts à 1, et puis soigner aussi la deuxième mi-temps. Hein. Ce n'est pas le point fort des Françaises qui, en général, débutent leur rencontre pied au plancher avant de faiblir. C'était le cas en tout début d'Euro contre l'Italie avec 5 buts inscrits en première période et aucun but donc en seconde. Enfin, les Bleus, orphelines de Marie-Antoinette Katoto, la Mbappé du foot féminin, gravement blessés au genou, doivent s'adapter, trouver des solutions avant le quart de finale de l'Euro. C'est pourquoi les Françaises ne prennent pas ce match face à l'Islande à la légère, confirme la sélectionneur Corinne Diacre.
Le groupe est concentré, même si le match ne compte pas pour notre qualif, ne compte pas pour la première place, mais il est important pour nous. On veut rester sur une dynamique de victoire. On veut continuer à garder cette confiance que l'on a. Donc, pas besoin très sincèrement de discuter avec les joueuses sur l'aspect motivationnel. Déjà, on est là.
Voilà, l'aspect qui est très important, d'avoir effectivement l'envie d'aller jusqu'au bout des Françaises qui devront gérer leur effort dans une atmosphère étouffante ce soir au New York Stadium de Rotterdam. Il fera 34 degrés au coup d'envoi.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Le quart de finale de l'équipe de France, c'est samedi.
C'est samedi, exactement.
Contre les Pays-Bas. Hein,
contre les Pays-Bas, qui ont gagné le dernier Euro. Ce sont les tenantes du titre. Ce sera un très gros match.
D'accord. Merci beaucoup Cyril. C'est bien noté. Le Tour de France, évidemment. Mais pas d'étape aujourd'hui, repos pour les coureurs, des choses à dire tout de même. On voit ça avec notre consultant de luxe, Richard Virenque, qui nous rejoint tout à l'heure vers 12h50. La météo, Valérie Darmon, vous nous recommandez toujours prudence en raison de la chaleur.
Absolument Raphaël, et je commence tout de même par la nouvelle la plus importante, c'est que la canicule va se décaler sur l'est demain et les orages vont éclater à l'ouest, donc les températures vont chuter. Alors c'est vrai que pour le moment, sans surprise, elle concerne tout le pays. 15 départements de la façade atlantique sont, vous le savez, en vigilance rouge canicule, 51 orange, 20 en jaune, ces températures qui grimpent partout. C'est la journée la plus chaude pour l'ouest de la France, avec de la Bretagne et la Basse-Normandie à l'Aquitaine. En Occitanie, des maximales entre 41 et 43 à l'ombre et sous abri, au soleil au moins 46-47, en général entre 35 et 39, un petit peu moins en Alsace, sur les côtes méditerranéennes ou celles de la Manche, au nord de l'embouchure de la Seine. Des records sont évidemment attendus. La nuit dernière a été exceptionnellement chaude aussi, 27,7 à Nice, 23,3 à La Roche-sur-Yon, 23,1 à Belle-Île-en-Mer. Tout cela à deux doigts des records absolus là aussi. Côté ciel, la majeure partie de la France fait le plein de soleil. Le vent de secteur est à sud-est devient sensible et sur la côte aquitaine, le vent va tourner, on l'a entendu dans le journal, brusquement à l'ouest. À ce moment-là, les nuages vont rentrer dans les terres, faisant chuter vos valeurs.
Merci Valérie Darmon, c'est bien noté. Le choix de Mola.
Europe 1. Le choix de Mola.
La librairie Mola de Bordeaux, notre partenaire pour la saison 5 d'Un livre pour l'été, l'élection présidentielle, les élections législatives. Nous venons de vivre une année politique intense, domaine qui constitue une source d'inspiration pour Jérôme Leroy. L'écrivain n'en est pas à son premier coup d'essai. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Avec cette nouvelle fiction qui flirte avec la réalité, Leroy nous démontre une fois encore son talent de plume.
Oui, il y a une dizaine d'années, Jérôme Leroy avait publié Le Bloc, un roman dans lequel il racontait l'ascension d'un parti d'extrême droite qui négociait son entrée au gouvernement, un gouvernement dépassé alors par des émeutes dans le pays. Jérôme Leroy excelle dans le thriller politique et Les derniers jours des fauves le prouvent une fois encore. C'est une fiction, bien sûr, mais qui s'inscrit dans un contexte que nous connaissons bien. Après 2 ans de restrictions liées à une pandémie, se profile une élection présidentielle qui se transforme en bataille terrible où tous les coups sont permis dans l'entourage de la chef de l'État, d'autant que Nathalie Séchard, la présidente de la République, renonce à un nouveau mandat, laissant le champ libre à son très droitier ministre de l'Intérieur, prêt à tout pour lui succéder, et au ministre de l'Environnement, son concurrent direct, Véronique Marot, libraire chez Mola.
Ce n'est pas un roman à clé, mais en même temps, on peut le lire comme tel au départ. Cette Nathalie Séchard, qui est la présidente, la 8e présidente de la République, qui est nommée à la tête de l'État depuis 5 ans, c'est bien sûr fictif. Son mouvement n'a pas d'existence véritablement dans la réalité, puisque ces nouvelles sociétés, ce sont ses initiales, tiens donc, comme un certain Emmanuel Macron, c'est En Marche. Donc, elle a en même temps rallié la droite et la gauche dans son gouvernement, et elle a deux principaux collaborateurs, Guillaume Manerville, qui est son ministre de l'écologie, à gauche toute, et à droite, son ministre de l'Intérieur, Patrick Bosséan, un vieux briscard de la politique qui a plus de 110 ans et qui, lui, vraiment essaie de faire sa place, une dernière place au soleil, parce que vraiment, dans cette arène des fauves, il y a beaucoup de coups bas, quoi.
Et voici le lecteur entraîné par Jérôme Leroy dans les coulisses du pouvoir.
Et moi, l'ambition de ce roman, c'est en m'appuyant sur la réalité des 5 dernières années, à savoir, par exemple, la crise des Gilets jaunes, la pandémie, évidemment, c'est quand même de montrer, de raconter, au-delà des événements ponctuels, qu'est-ce que ça veut dire prendre le pouvoir, pourquoi prendre le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire perdre le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire essayer de le garder, à la fois dans les sphères politiques elles-mêmes, que je dépeins, mais aussi par les conséquences très pratiques que ça peut avoir sur la vie des individus. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas la réalité qui elle-même ressemble à un roman noir. Il y a certaines choses qu'on peut avoir vues des affaires, comme on dit ces dernières années, qu'on hésiterait presque à mettre dans un roman, tellement on trouverait que ce n'est pas vraisemblable. Or pourtant, c'est le vrai.
Une guerre de succession politique, une tension permanente, une intrigue parfaitement maîtrisée, les derniers jours des fauves, c'est un bonheur absolu de lecture.
Un livre pour l'été, c'est à retrouver tous les jours sur Europe 1 avec nos partenaires de la librairie Mola à Bordeaux et Stéphane Place.
Europe Midi.
Europe Midi revient dans quelques instants. Place au débat. Je suis aujourd'hui avec la députée des Yvelines Renaissance, Natalia Pouzyreff, et le député du Loiret et Rassemblement National, Thomas Ménager. Nous évoquerons notamment le projet de loi pouvoir d'achat qui arrive aujourd'hui dans l'hémicycle. Restez avec nous.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
De retour dans Europe Midi, merci de votre fidélité. Nous passons maintenant à notre débat. Nous sommes en compagnie de Natalia Pouzyreff, députée des Yvelines Renaissance. Bonjour madame.
Bonjour.
La députée. Et nous sommes également avec le député Rassemblement National du Loiret, Thomas Ménager, par téléphone. Bonjour.
Bonjour Raphaël Delvolvé.
Alors, on va évoquer l'actualité parlementaire du jour, l'arrivée du projet de loi pouvoir d'achat dans l'hémicycle aujourd'hui. J'aimerais commencer avec vous, Natalia Pouzyreff, pour vous demander si un compromis est possible. On rappelle, le texte comprend 20 articles, 20 milliards de budget et des mesures très concrètes pour aider le pouvoir d'achat des Français. Quel compromis est possible ?
Eh bien, écoutez, de toute façon, l'idée, c'est d'aller dans le sens d'aider les Français à traverser cette poussée inflationniste. Et donc, si des compromis s'avèrent pertinents, des solutions concrètes, justement, comme vous l'avez dit, pour répondre aux attentes des Français, on les regardera, bien sûr, tous. Moi, je pense à la déconjugalisation de l'AAH, qui avait été un sujet de débat dans le quinquennat précédent, qui revient comme une mesure facilitant l'autonomie des personnes. Donc, je pense à cette possibilité-là. Et puis, ensuite, nous verrons en fonction des débats. Mais il y a déjà eu des avancées qui ont été faites en commission. Et en revanche, il y a des suggestions de la part de nos oppositions sur lesquelles nous ne donnerons pas suite, comme par exemple toucher à la TVA, mettre une TVA zéro sur les produits de première nécessité, parce que ça coûte très cher, 10 milliards, et parce que ce n'est pas ciblé. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on cherche avant tout des mesures ciblées. Par exemple, les Républicains souhaiteraient que l'on revoie le prix du carburant à 1,5 euros. Néanmoins, ça concerne tous les rouleurs. Or, nous voulons favoriser les gens qui sont des gros rouleurs, qui n'ont pas le choix que de prendre leur véhicule, et qui sont plutôt dans des foyers qui ont moins de moyens que d'autres.
Alors la TVA à 0% sur certains produits, c'est non, vous l'avez entendu, Thomas Ménager, ça c'est une proposition qui émane de votre groupe parlementaire, Rassemblement National.
Oui, très clairement, comme la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur les énergies, sur le carburant, sur le fuel, sur le gaz, bah, je suis un petit peu déçu qu'avant même le débat cet après-midi que nous allons débuter, il y ait un rejet de ces propositions qui ont été plébiscitées dans ma circonscription et partout en France. C'est des vraies attentes. Nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est aussi d'éviter ce que prépare le gouvernement, c'est-à-dire d'aider uniquement les classes moyennes, les personnes qui sont aux minima sociaux. C'est une bonne chose, on le soutient, et on soutient bien entendu cette revalorisation des minima sociaux. Mais il y a aujourd'hui en France, et je le vois sur mon territoire dans le Loiret, des classes populaires supérieures, des classes moyennes qui s'appauvrissent, qui il y a quelques années ne connaissaient pas ces difficultés à boucler les fins de mois, et qui aujourd'hui sont totalement oubliées du gouvernement. Et aussi, nous, ce qu'on condamne, c'est cette volonté de chèque, de monnaie hélicoptère, c'est-à-dire de balancer des chèques pour donner le sentiment de faire l'aubône, alors que les Français, je peux vous le dire, sur mon territoire, ils veulent vivre dignement de leur travail.
La chef des députés RN, Marine Le Pen, avait pourtant dit qu'elle voterait des mesures qui iraient dans le bon sens. Celle-ci ne va pas dans le bon sens, selon vous ?
Non, celles qui ont été citées par Mme Pouzyreff, non. Mais après, comme l'a dit Mme Pouzyreff, on arrive quand même à avoir un certain nombre de points d'entente. La déconjugalisation de l'âge que nous portons...
Donc, par article, vous allez voter avec le gouvernement, Thomas Ménager ?
Mais très clairement, par article, on va voter avec le gouvernement. Par amendement, on va peut-être parfois voter aussi des propositions qui viennent d'autres oppositions, des Républicains, de la France Insoumise. Nous, on a une ligne qui est très claire et une seule boussole, c'est de s'interroger sur ce qui est bon ou non pour les Français. Et donc, on n'est pas dans une volonté d'opposition pour bloquer, on n'est pas la France Insoumise, mais on ne peut pas non plus laisser passer un certain nombre de mesures qui sont plébiscitée, attendue, comme la baisse de la TVA à 5,5 sur les énergies.
Nathania Pouzirey vous répond et on marque une petite pause.
Je crois qu'il y a des solutions qui sont adaptées à la conjoncture et puis d'autres qui ne le sont pas. Toucher à la TVA, ce sont des mesures structurelles importantes et qui font que finalement, on ne revient jamais sur... on ne réaugmente plus la TVA.
On ne met pas une TVA à 0% et on ne la remet pas à 20%
voilà.
Le lendemain.
Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est des solutions effectivement concrètes avec une application dans la vie des Français pour la classe moyenne et les Français les plus défavorisés, donc plus ciblés et qui soient conjoncturels. Pourquoi ? Parce que d'un autre côté, il y a une dette qui nous expose de plus en plus tous les jours alors que les taux d'intérêt remontent. Donc c'est en responsabilité qu'il faut agir, préserver les gens les plus vulnérables, ceux qui utilisent aussi plus leur véhicule pour parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont en province justement, comme le disait Monsieur Ménager, ils sont éloignés de leur travail, ils n'ont pas recours à des transports publics aussi facilement que l'on peut l'avoir dans les grandes villes. Donc on est tout à fait conscient de ça. C'est pour ça que la prime transport aussi, par exemple,
on va continuer
qui est disponible
juste après
dans les
la
entreprises,
on
ne rentre
pas trop dans le détail. On marque une petite pause et on revient dans quelques instants. On poursuit notre débat dans Europe Midi. À tout de suite.
Europe Midi. Raphaël Delvolvé.
Nous reprenons le débat d'Europe Midi dans quelques secondes, mais avant cela, le rappel de l'actualité avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. 15 départements en alerte rouge canicule, 51 en alerte orange. La France est en surchauffe. Les températures maximales seront comprises entre 38 et 40 degrés sur une bonne partie du pays, avec des records attendus à l'ouest. La chaleur et le vent qui attisent les feux. En Gironde, 14 300 hectares ont été détruits selon le dernier bilan de la préfecture. 1700 pompiers luttent toujours contre les flammes à Landiras et la Thèse de Buch. 3 bombardiers d'eau supplémentaires ont été envoyés en renfort. Le très attendu projet de loi pour le pouvoir d'achat arrive à l'Assemblée. Un paquet de mesures pour limiter les effets de l'inflation, avec notamment la prolongation du bouclier tarifaire pour le gaz et l'électricité, la suppression de la redevance audiovisuelle ou le maintien de la remise carburant. La grande distribution priait de jouer le jeu de la sobriété énergétique, de Carrefour à Leclerc en passant par Picard. Tous se sont accordés pour éteindre leurs enseignes dès la fermeture, réduire l'éclairage et baisser la température dans les allées à partir du 15 octobre. La guerre en Ukraine. 6 personnes ont été tuées dans un bombardement russe à Toretsk dans le Donbass, selon les autorités ukrainiennes. Une réunion de l'Union européenne est prévue aujourd'hui pour durcir les sanctions contre Moscou. H&M a déjà annoncé se désengager progressivement de Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine. Et puis l'Euro de foot féminin, les Bleus affrontent l'Islande à 21h ce soir. Les Françaises qui affronteront les championnes d'Europe en titre, les Néerlandaises, en quart de finale, ce sera samedi.
Merci Émilie Dez qui vous accompagne, vous informe en cette chaude journée d'été sur Europe 1. Nous sommes avec Natalia Pouzirev, députée des Yvelines Renaissance, et Thomas Ménager, député du Loiret Rassemblement National. Nous parlions du projet de loi pouvoir d'achat qui arrive dans l'hémicycle en séance cet après-midi. Ce sera dès 16h. Alors, avant la pause, on avait compris que l'attitude du Rassemblement National, en tout cas dans la voix de Thomas Ménager, allait être de négocier point par point, article par article. Si j'ai bien compris l'interview du 14 juillet d'Emmanuel Macron, Natalia Pouzirev, le camp présidentiel fait plutôt des clins d'œil, pas au Rassemblement National, mais plutôt aux Républicains, quand Emmanuel Macron a dit, vous savez, la meilleure réponse au pouvoir d'achat, c'est le travail.
C'est ce que nous avons porté aussi durant le quinquennat précédent. Hein. Donc, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de nouveauté sur la valeur travail. Nous l'avons porté dans le programme de 2017 et dans le programme de 2022, parce que nous croyons fondamentalement que c'est la croissance qui nous permettra de maintenir, de préserver notre modèle social. Ce qui est évidemment important pour toute la population française et notamment, je pense, les classes moyennes et les plus démunis, mais pas seulement eux, parce qu'on voit bien, on a un système avec des efforts encore à faire et des investissements à conduire dans le domaine de la santé. De même, il faudra sans doute réformer notre système d'éducation pour arriver à une meilleure égalité des chances, puisque nous savons que c'est un souci que nous pouvons avoir, c'est cette inégalité des chances qui s'accroît par le système scolaire. Donc voilà, tout ça se finance par de la croissance, par des recettes fiscales, des rentrées fiscales qui augmentent parce que plus de monde travaille, parce que le chômage diminue, c'est ce que nous avons fait pendant 5 ans, parce que les entreprises se portent bien, elles embauchent, mais aussi elles font des profits. Et ces profits, eh bien, il y a une partie qui revient dans les recettes, dans les caisses de l'État.
Thomas Ménager, le groupe Rassemblement National ne parle pas beaucoup de la valeur travail, hein.
Oh bah, tout au contraire, je pense qu'on défend réellement ceux qui travaillent. C'est pour ça que je vous disais il y a quelques instants que nous, on veut aussi s'assurer, c'est un des amendements que je déposerai, d'être certain que les mesures qui sont portées actuellement par le gouvernement qui visent à revaloriser les minima sociaux ne vont pas faire qu'un certain nombre de Français auront plus d'intérêt à rester aux minima sociaux qu'à aller travailler en prenant leur voiture, sachant que le gouvernement refuse cette baisse de la TVA sur l'énergie. Le désaccord qu'on a avec Mme Pouzyreff, c'est aussi le fait que nous, on souhaite que ça soit pérenne, que ça dure dans le temps. Je comprends la volonté de gérer uniquement l'urgence, même si en plus de manière totalement imparfaite. Mais nous, on veut que la France ne soit pas le pays qu'il est actuellement, c'est-à-dire le pays le plus taxé, où les gens, je crois que ça a été sorti hier publiquement, je crois que depuis, on a une bonne partie de l'année où on ne travaille pas non pas pour soi, pour vivre, pour ses enfants,
mais
pour payer des impôts. Ouais. Et c'est une vraie différence que l'on a. C'est que nous, on veut limiter ce poids fiscal et donner de l'air aux Français.
Non, nous avons une politique de baisse des impôts. Pour la TVA, il s'agit de, vous savez très bien, la TVA aussi, c'est réglementé. Et la TVA française, elle se situe dans la moyenne des pays européens. Ce qui est plus important en France, ce sont effectivement les dépenses publiques. Mais dans la TVA, on se trouve dans une moyenne. Et là, de façon pérenne, je ne vois pas comment on peut... Parce que ça coûterait 10 milliards quand même, cette baisse de passer la TVA à zéro. 10 milliards. Et ces 10 milliards, vous les perdez tous les ans. Et vous aggravez forcément la dette. Et si vous aggravez la dette, eh bien, les intérêts de la dette pèsent plus lourd dans le budget et ils vont concurrencer bientôt le budget de l'éducation nationale dont je parlais précédemment, et à ce moment-là c'est autant d'argent qui est mis qui n'est pas mis justement dans des politiques publiques et qui ne sont pas qu'en faveur des plus démunis, qui touchent toute la population française, puisqu'on a quand même un système d'éducation et de santé qui est le moins cher que l'on puisse trouver, parmi les moins chers que l'on puisse
Thomas
trouver
Ménager,
sur la planète.
J'aimerais qu'on parle sécurité après, allez-y Thomas Ménager.
Oui, moi je tiens juste à rappeler à Mme Pouzyreff que la dette et la situation de la dette aujourd'hui en France, c'est aussi le bilan d'Emmanuel Macron. 600 milliards, et sans invoquer le Covid, qui représente qu'un tiers de cette situation de dette d'Emmanuel Macron. Nous, ce qu'on considère aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a des économies à faire. Des économies sur le train de vie de l'État, il y a des rapports de la Cour des comptes sur les autorités administratives indépendantes, il y a un millefeuille administratif en France. On souhaite aussi instituer une taxe sur les profits des grands groupes pétroliers et gaziers, parce qu'on voit qu'en cette période, ils font d'importants profits. Aujourd'hui, bien entendu, cette baisse de la TVA, elle aurait un coût, mais un coût qui pourrait être compensé par des économies et par des nouvelles recettes fiscales, non pas sur les Français, mais pour ceux qui profitent aussi de cette situation.
Non, la TVA, c'est quand même une des principales recettes de l'État, et je pense
la
que
principale.
C'est la principale recette de l'État, et je pense que ce n'est pas très raisonnable de vouloir la diminuer. Après, sur le fait que effectivement nous agissions par exemple sur EDF pour avoir plus de marge de manœuvre pour le blocage des prix du gaz et de l'électricité, eh bien nous l'avons déjà fait, et ça depuis septembre. Vous avez ce que l'on appelle le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, et EDF étant le principal fournisseur. Donc moi je crois que vous avez des solutions que vous devriez pérennes, mais qui ne rendrait pas un équilibre des comptes. Après, je suis d'accord qu'il faut toujours chercher les gisements d'économie dans les dépenses publiques, dans les dépenses de l'État.
On suivra les débats ces 3 prochains jours à l'Assemblée nationale. C'est toujours intéressant de voir sur quel article, sur quel point majorité présidentielle et tel groupe d'opposition s'accordent. On suivra ça donc ces 3 prochains jours, voire 3 prochaines nuits. J'aimerais évoquer avec vous ce qui s'est passé ce week-end à Angers, un réfugié soudanais de 32 ans, réfugié politique depuis 2018, a tué au couteau 3 jeunes, dont un mineur de 16 ans. Les 2 autres sont âgés de 18 et 20 ans, il a été écroué, il encourt la perpétuité. On est face à un fait divers ou un fait de société lorsque l'on sait qu'il y a actuellement en France près de 100 agressions au couteau par jour. Nathalia Pouzirev, je vous donne la parole en premier, Thomas Ménager ensuite.
Oui, c'est un triste fait divers. Avec,
Donc fait divers pour vous.
Oui, c'est bon, le fait que cette personne-là soit d'origine soudanaise et peut-être à prendre en compte, il faut voir son parcours en tant que migrant, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés, des grands stress psychologiques et autres et qui conduisent à des dérives parfois psychiatriques. Donc ça, il faut y prêter bien sûr attention. Mais malheureusement, comme vous le dites, il y a beaucoup d'agressions au couteau qui se produisent. Il y a une violence dans la société, mais il y a d'autres villes. Et donc c'est pour ça que je le range dans la catégorie fait divers. Mais c'est surtout un drame absolu pour les familles, pour ces jeunes qui ont perdu la vie, pour tous les habitants d'Angers qui doivent être effectivement sous le choc pour le club de rugby qui accueillait les deux jeunes qui ont voulu prendre la défense en plus d'une femme, je crois, qui était agressée, importunée. Donc c'est un drame, je le range à la catégorie fait divers. Cette personne, l'agresseur, était bénéficié d'un titre de séjour, donc il était en situation régulière. Mis à part en savoir plus sur ces conditions psychologiques, je ne peux que déplorer effectivement et adresser toute ma sympathie à tous les proches de ces personnes.
Vous voyez, ça arrive dans une ville qui a la réputation d'être attractive, où il fait bon vivre. Thomas Ménager, vous êtes d'accord avec Nathalia Pouzirev, c'est un fait divers?
Ce qu'on constate, c'est que ce sont des faits divers qui sont répétés. Le même jour, à Metz, à Amiens, je crois dans la Drôme, il y a eu des attaques au couteau. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis un petit peu gêné d'entendre Mme Pouzirev sous-entendre que cette personne pourrait avoir des troubles psychiatriques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut arriver, je ne dis pas le contraire, mais il y a un sentiment de culture de l'excuse, de toujours trouver des raisons pour lesquelles ces personnes commettraient ces méfaits sur le territoire. Et oui, ça pose quand même question de ces personnes qui sont aujourd'hui soit en situation irrégulière ou en situation régulière sur le sol, avec des contrôles qui sont peut-être pas suffisants. Et bien entendu, c'est la grandeur de la France d'accueillir et d'avoir une politique d'asile accueillante, réelle. Mais aujourd'hui, on le voit, c'est souvent, ça arrive de manière assez répétée, ce sont des personnes issues de l'immigration qui, sur notre sol, commettent ces méfaits. Et donc, c'est aussi une question de politique de la justice. Et c'est pas aujourd'hui, je pense, M. Dupond-Moretti qui envoie un signal dans le bon sens, puisqu'il est aujourd'hui vu comme un ministre laxiste qui n'a pas mis de moyens dans la justice.
La France n'est pas un coup blanc, c'est une déclaration qui date de 2020.
On met plus de moyens qu'il n'en a jamais été mis avant. Si vous voulez, on retombe effectivement sur les explications que l'on doit aux Français, c'est-à-dire que pendant des décennies, rien n'a été fait. Et depuis le dernier quinquennat, on a augmenté le budget de la justice comme ça n'avait jamais été fait avant. On a recruté plus de 700 personnes. Là, on est en train de recruter 2000 personnes. Parce qu'effectivement, il faut que la justice suive. Nos forces de l'ordre sont au travail et il faut que la justice suive. On en est bien conscient et c'est pour ça qu'on met plus de moyens. Mais sur les faits divers, attaque au couteau, moi je n'ai pas les chiffres exacts, mais sur les 100 événements que vous avez cités, je ne pense pas qu'ils soient tous le fait de migrants. Malheureusement, il y a effectivement un fait de société.
Il y a un fait de société.
Comme, ça c'est vrai dans ce sens-là. Ce que je voulais écarter, c'est le fait que ce ne sont pas tous des gens issus d'immigration. Il ne s'agit pas de trouver non plus des excuses là-dessus. Mais sur ce fait de société, c'est vrai qu'on a vu ça aussi en Angleterre, c'est arrivé. Des agressions qui se multiplient par agression au couteau. Et vous avez raison, il faut regarder ça de plus près, faire une analyse approfondie, mais il faut se garder de tirer des conclusions hâtives, effectivement, sur le profil de ceux qui perpétuent ces actions.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dit vouloir parler aux tripes des Français et faire passer une loi très prochainement pour expulser immédiatement les délinquants étrangers, donc condamnés pour des faits extrêmement graves. C'est la solution, Thomas Ménager?
Ça fait partie des solutions. Il n'y a pas qu'une solution. Comme l'a dit Mme Pouzirev, bien entendu, tous les faits de violence ne sont pas uniquement liés à la question de l'immigration. Mais il ne faut pas le nier qu'il y en a une part qui est non négligeable, qui aujourd'hui est liée à la politique migratoire des dernières années. Ce que je constate, c'est que Mme Pouzirev dit qu'il y a eu une augmentation des moyens de la justice. On est d'accord, mais malheureusement, elle a été concentrée quasi exclusivement sur la pénitentiaire. Il y en avait besoin. On ne dit pas le contraire, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que dans les tribunaux, il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez de magistrats, les délais sont de plus en plus longs pour avoir des décisions de justice, des peines ne sont pas appliquées, et c'est aussi pour ça qu'il y a parfois un ras-le-bol chez les policiers, et moi je le vois sur mon territoire à Montargis. Ils connaissent, ils les appellent les bons clients, parce qu'ils revoient les mêmes toujours au commissariat, toujours les mêmes qui ne sont pas emprisonnés, qui ressortent au bout de quelques semaines, qui sont souvent ne sont même pas du tout mis en détention, puisque ce sont des peines de moins d'un an. Et donc aujourd'hui, il y a deux jambes, une politique voilà,
non, mais je conteste sur le fait que rien ne s'est passé, que c'est seulement dans la pénitentiaire. C'est pas vrai, justement. On est en train de recruter des greffiers, des personnes qui sont capables d'assister les magistrats, justement, afin de réduire le délai de traitement des dossiers. Et c'est en train de se passer maintenant. On a effectivement toujours un effet retard par rapport aux investissements qui sont mis en œuvre pour que les personnes arrivent et prennent leur fonction. Mais c'est en ce moment que les délais sont en train de se réduire. Et bien sûr que c'est par la prise de conscience et l'action concrète au niveau de la justice qu'on arrivera à réduire ces délais. Après, la politique pénale, il y a eu une loi qui a été un dispositif nouveau qui a été fait vis-à-vis des mineurs. Il y a la volonté de ne pas tolérer les incivilités du quotidien. Et moi qui ai porté la loi contre les rodéos motorisés, je peux vous dire qu'on suit de près toutes les actions qui sont menées et le suivi pénal qui peut être donné. Il y a d'autres incivilités qu'il faut continuer à réprimer, parce que les Français, effectivement, ne supportent pas de voir une impunité quelconque lorsque ces personnes les dérangent dans leur vie quotidienne, ou lorsque c'est plus grave, lorsqu'il y a des crimes qui sont commis. Bien sûr, il ne peut pas y avoir d'impunité. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de démontrer.
Thomas Ménager, vous pouvez répondre, et après on évoquera la polémique Mathilde Panot.
Non, mais très brièvement, ce que je constate, c'est que Mme Pouzirev nous dit que les délais sont en train de se réduire. Bah, pour le moment, on ne le voit pas. Ça aurait été bien de le faire depuis 5 ans. C'est bien aujourd'hui, en début de nouvelle législature, de nous dire que ça va commencer à produire ses effets. Moi, je peux l'emmener sur le terrain, et je pense qu'elle le constate réellement, elle aussi, sur son territoire. Aujourd'hui, rien n'a changé. Il y a un vrai ras-le-bol, notamment des forces de l'ordre, des Français, qui subissent au quotidien ces attaques, ces délits, ces crimes. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un prisme de la part de Mme Pouzirev par rapport à la réalité. Il y a une vraie déformation de la réalité. Et j'espère qu'elle a raison, qu'il va y avoir des évolutions. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne les constate absolument pas.
Il y a des évolutions et il y a un travail qui se fait en commun entre les deux ministères et les deux ministres, ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice, pour que le suivi judiciaire pénal se passe de la façon la plus efficace possible.
Je voulais évoquer avec vous maintenant, je crois qu'on peut refermer ce chapitre sécurité, on a suffisamment parlé. Merci Thomas Ménager. Alors, votre collègue, la chef des députés, la France Insoumise, Mathilde Panot, persiste et signe ce matin. Elle dit avoir voulu lancer l'alerte hier, alors que nous commémorions les 80 ans de la rafle du Veldiv. Mathilde Panot, dans un tweet où elle ne citait pas les victimes, hein, le peuple juif, elle dénonçait l'hommage appuyé du président Emmanuel Macron au maréchal Pétain. Elle faisait référence à 2018 pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, où, c'est vrai, Emmanuel Macron avait qualifié le maréchal Pétain de grand soldat. Et Mathilde Panot a ajouté également que le président rendait hommage aux 89 députés Rassemblement National. Tiens, Thomas Ménager, comment vous avez réagi quand vous avez lu ce tweet de Mathilde Panot?
Bon, j'ai trouvé que cette comparaison était ignoble. Je considérais que Mme Panot, alors qu'elle avait déjà montré dans l'hémicycle à quel point elle pouvait être absolument pas à la hauteur des fonctions qu'elle occupe, vraiment, ça a été, elle s'est comportée comme une ligne-garde, quoi. Elle a montré à quel point, elle méconnaissait l'histoire et elle méconnaissait les institutions. C'est aussi insulter les personnes qui nous ont élus, les 89 députés.
Qu'est-ce qui vous a choqué, la citation des 89 députés RN?
Oui, et puis même de comparer le président de la République limite à un collabo du régime de Vichy, c'est scandaleux. On était hier dans une journée de commémoration d'hommage, d'union nationale. Moi, j'étais présent à Pithiviers aux côtés du président de la République pour l'inauguration de ce nouveau lieu de mémoire. J'ai trouvé son discours à la hauteur. On est dans des moments où on a une France qui est fracturée et ces personnes, la NUPES, la France Insoumise, participent à mettre de l'huile sur le feu, à créer des débats et des polémiques là où il n'y en a pas. Et surtout pour cacher au final leur accointance avec les islamistes et avec les fondamentalistes islamistes qui, eux, participent aujourd'hui à cette recrudescence de l'antisémitisme sur notre territoire. Donc, ça a vraiment été honteux. Et Madame Panot, moi, on m'a toujours appris quand on disait une bêtise, il fallait avoir l'intelligence de s'excuser. Elle a montré à quel point elle était bête ce matin en refusant de présenter ses excuses.
Elle persiste et elle signe. Nathalia Pouzirev, comment vous avez réagi, vous ?
J'ai trouvé aussi que c'était proprement ignoble, inqualifiable. Elle a fait un amalgame qui n'a pas lieu d'être. Son tweet était même incompréhensible. Je pense que c'est une faute politique et que donc elle doit s'excuser. Elle est quand même présidente de groupe et elle donne une image de la France aussi à l'étranger, mais qui est catastrophique.
Mmh. Et puis ça vient à la suite aussi d'une autre polémique, hein, où on avait cité le mot antisémitisme quand elle avait qualifié la première ministre de rescapée.
Oui, et puis quand aussi certains membres de la France Insoumise ont reçu Jérémy Corbyn. Donc cette accumulation-là est véritablement déplorable. Je ne sais pas quel fil la France Insoumise est en train de tisser. Je pense que ça déplaît aux autres partenaires de la NUPES. D'ailleurs, on a vu quelques réponses qui venaient de socialistes ou des Verts. Moi, je crois qu'elle a fait tout simplement une faute politique, ou alors c'était pour détourner l'attention d'autres polémiques qui concernent la France Insoumise, avec Éric Coquerel qui a été mise, je crois, en examen. Mais bon, je pense qu'elle doit, dans tous les cas, s'excuser, parce que c'est ce qu'on doit aux victimes, les victimes du Vel'Hiv, ces hommes, ces femmes, ces enfants. On leur doit avant tout le respect. Et moi, j'étais vraiment écœurée par ce tweet qui est venu perturber cet hommage que l'on doit à ces victimes et qui aussi comprend la part de responsabilité que la France doit assumer dans ce qui s'est passé il y a 80 ans.
Et dans son discours à Pithiviers, le président a appelé les partis républicains à redoubler de vigilance contre la résurgence de l'antisémitisme. Qui visait-il ? La France Insoumise, la NUP, le Rassemblement National ? Thomas Ménager, vous êtes senti visé ?
Bah oui, en étant membre de l'arc républicain, contrairement à ce que certains peuvent vouloir dire, voilà, nous aujourd'hui on défend ces valeurs républicaines, d'égalité, de laïcité, de fraternité, et aujourd'hui on est très ferme aussi sur ces questions d'antisémitisme. Comme je vous le disais, aujourd'hui on voit que le plus important vecteur d'antisémitisme, c'est le fondamentalisme islamiste, et c'est aussi pour ça que Madame Panot était en roue libre, pour aussi faire plaisir, je pense, à une partie de son électorat. Et on voit, et je confirme ce que dit Madame Poussières, Madame Panot doit s'excuser, doit présenter ses excuses, et les membres de la NUPES doivent condamner et ne pas fermer les yeux face à tel propos. Et elle est totalement en roue libre. Madame Panot, ce matin, elle disait que Monsieur Coquerel était accusé seulement d'avoir dansé un rock et d'avoir mis une main.
Alors ça, c'est une autre polémique.
Oui, c'est une polémique, mais c'est vrai que pour revenir sur...
Nathalia Pouzirev, vous avez le mot de la fin, on est obligé de refermer le débat.
L'antisémitisme n'a pas sa place en France. Il y a eu une recrudescence de faits qui ont été relevés ces dernières années et nous devons absolument mobiliser toute la société française pour dire que ça n'a pas sa place en France. C'est une ignominie. Et nous avons toute notre solidarité auprès de ces personnes qui se sentent peut-être parfois mises en danger sur notre territoire parce qu'il y a des attaques sur les réseaux et il y a eu malheureusement aussi des attaques dans la vie réelle.
Merci Nathalia Pouzirev, Madame la députée des Yvelines Renaissance. Merci Thomas Ménager, député du Loiret, Rassemblement National, d'avoir participé au débat d'Europe Midi. Voilà. Dans quelques instants, nous prenons la route du Tour, une petite pause et on revient sur Europe.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
Allez, on enfile le lycra, on monte sur notre vélo, direction les routes du Tour.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Énergie. Tout de suite sur la route du Tour.
Le Tour de France sur Europe 1 avec Richard Virenc.
Richard Virenc est avec nous. Bonjour Richard.
Bonjour à tous.
C'est une nouvelle journée de repos aujourd'hui pour les coureurs. Elle va faire du bien parce qu'hier, ce n'était pas une étape de haute montagne, mais il faisait très, 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 très chaud. Hein.
Oui, une quarantaine de degrés. On a fini la deuxième semaine de ce Tour de France. Donc, les organismes de ce tour commencent à taper un peu dans les réserves. Et en plus, si on a la calcul en ce moment, et ben, c'est un peu plus dur. Donc, il est clair que cette dernière semaine du Tour va faire des dégâts. On est au pied des Pyrénées, on a trois étapes de montagne. La dernière, elle est mythique avec l'arrivée à Otakam. Donc, si la température reste comme ça, eh ben, ça restera un tour très difficile qui va laisser des traces. Et il y a un beau duel entre le maillot jaune, Jonas Vingegaard, ouais, exactement, de l'équipe Jumbo, qui a perdu pas mal d'équipiers. Hein. Il était, on va dire... avec une équipe d'enfer et à cause des chutes, à cause du Covid, la masse de l'équipe...
Bon, alors, Richard, on vous entend très très mal ici à Paris, petit problème de liaison. On va la rétablir dans quelques instants et on revient avec vous sur les routes du Tour. À tout de suite.
Le Tour de France. L'émotion vélo est sur Europe 1.
De retour sur les tours sur les routes du Tour de France et avec Richard Virenque qu'on a retrouvé. Richard, avant la pause, on évoquait les pertes hier dans l'équipe de l'actuel maillot jaune Jonas Vingegaard qui a perdu deux nouveaux coéquipiers. Ça va relancer le suspense avec ce mano à mano avec Tadej Pogacar, c'est ce que vous disiez, hein?
Oui, tout à fait. L'équipe Jumbo a été touchée par la malchance et par le Covid en même temps, un peu comme tout le monde. Et il est clair qu'elle avait une équipe incroyable sur ce Tour de France. Et maintenant, elle est affaiblie. Et il est clair que maintenant, l'équipe de Pogacar, ils vont peut-être essayer d'en profiter. En tout cas, Pogacar, c'est clair que ça reste le grand favori de ce Tour. Il a gagné deux fois. Il a fait une erreur tactique il y a quelques jours, on se souvient. Il a perdu 2 minutes 30 à cause d'une fringale. Donc là, les trois étapes de montagne qui restent, il va tenter le tout pour le tout. Et c'est des belles étapes de montagne, bien dures, avec la dernière étape de montagne qui est l'arrivée à Otakam.
Merci Richard Virenque. Eh bien, on suivra ça évidemment en votre compagnie sur Europe 1. Richard Virenque, notre consultant de luxe pour le Tour de France.